ce 5 mai, c'est la fête d'un pape, Saint Pie V. C'est un des rares papes au cours du dernier millénaire à avoir été canonisé. Hein. On connaît Saint Pie X, mais avant ça, Saint Pie V. Puis il faut aller encore plus loin pour en trouver un autre. C'est curieux. Très peu de papes durant ce millénaire ont été canonisés. Il a vécu, Saint Pie V, de 1504 à 1572. Vous voyez l'époque de la réforme protestante, l'époque de cette brisure immense dans l'Église. Et c'est l'époque aussi de l'attaque des Turcs contre l'Occident. Et c'est une époque aussi de décadence dans l'Église. Une époque extrêmement difficile. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ce pape était dominicain. On le considère comme un réformateur de l'Église. Il n'y est pas allé de main morte. Il est fêté le 5 mai, bien qu'il soit mort le 1er mai. Saint Pie V est né dans un tout petit village. C'était un petit paysan de rien du tout, finalement. Paysage lombard, donc... Dans le nord de l'Italie, près de la France, dans la région de Turin. En fait, c'est dans la région de la petite ville d'Alexandrie. Il est né à Bosco. C'est le nom de famille de Saint-Jean Bosco. Vous voyez qu'il vient de cette région-là, lui aussi, dans le diocèse de Tortone. Et il est né un 17 janvier 1504. Son père s'appelait Paul Ghisilieri, ou Ghislieri, si vous préférez. Et sa mère s'appelait Dominique Augeria. Ils étaient des vignerons, plutôt pauvres. Donc il a dû goûter au bon vin dès son jeune âge. Il possédait un petit troupeau aussi. Et comme ils étaient pauvres, eh bien dès l'âge de 12 ans, il en avait la garde de ce troupeau. Curieux pour un futur pape qui aura un pouvoir immense. Donc, ce petit Michel serait peut-être resté pâtre si Dieu, dans un sens, n'avait pas envoyé sur son chemin, c'était assez particulier, spécial, deux Dominicains qui se sont rendus compte assez rapidement de la brillante intelligence de cet enfant pauvre et qui ont obtenu des parents qui puissent l'entraîner avec eux dans leur couvent. Et puis, le couvent était à Voghera. Et après 2 ans d'épreuve, il a reçu l'habit des Dominicains. Et comme le nom de Bosco ne disait rien aux prieurs dans ce temps-là, hein, ce nom qui est très connu aujourd'hui à cause de Saint-Jean Bosco qui a vécu au siècle dernier, dans ce temps-là, c'était pas connu. Alors, on l'a invité à décliner son nom. Souvent, les gens n'avaient pas de nom de famille, hein. Et puisque vous êtes né aux environs d'Alexandrie, lui a dit le prieur, vous vous appellerez dorénavant Michel Alexandrin. Et c'est assez curieux que, parce que pour l'histoire, une grande partie de sa vie, il porte le nom d'Alexandrin. On l'appellera plus Michel. Il sera le cardinal, un jour, le cardinal Alexandrin, du nom de cette ville, pas loin de Bosco, où il est né. Et en 1519, il prononce ses vœux solennels. C'est ce que je retrouve partout, qu'il ait prononcé ses vœux en 1519, il est né en 1504. Ça lui donnerait 15 ans pour prononcer ses vœux solennels. J'ai l'impression qu'il y a une erreur qui court d'une vie à l'autre, parce que faire ses vœux à 15 ans solennels, c'est impensable. Il les a faits au couvent de Vigevano. Ses supérieurs l'envoient à Bologne, où il obtient ses grades en théologie, puis il occupe bientôt même une chaire de théologie. Il est brillant, je vous ai dit. À 24 ans, il est ordonné prêtre à Gênes, donc toujours dans le nord de l'Italie, puis les Dominicains de Vigevano, puis d'Albe, le prennent successivement comme prieur. Hein. Comme la réforme protestante entraîne dans ce qu'on appelait l'hérésie, nombre de catholiques du nord de l'Italie, je garde les mots de l'époque, hein, je ne veux pas offenser mes frères protestants, nous considérions, nous les catholiques, comme hérétiques ceux qui se séparaient de la grande église catholique. Je m'en excuse, mais c'est le vocabulaire de l'époque, je l'utilise pour qu'on comprenne et qu'on resitue l'action de ce pape et l'action de part et d'autre, tant des protestants que des catholiques, vis-à-vis les uns des autres. Donc, quand je parle des protestants, je parle de la réforme protestante. Ce sont des réformateurs. Et pour les catholiques, ce sont des réformateurs hérétiques. Que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, j'utilise les termes de l'époque. Aujourd'hui, nous parlons de nos frères séparés. Le vocabulaire est tout changé à cause du merveilleux mouvement œcuménique. Donc, je recommence. Comme la réforme protestante entraînait dans l'hérésie nombre de catholiques du nord de l'Italie, bien le Saint-Office, qui est un département, si vous voulez, du Vatican, envoie le prieur d'Albe, notre frère ou père alexandrin, à Côme, avec le titre et la mission d'inquisiteur. Puis le père alexandrin, dit-on, s'est acquitté de sa charge avec un zèle assez bon, c'est ce qu'on dit. Disons, même parfait aux yeux des gens de l'époque. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra aller voir, dans des ouvrages beaucoup plus vastes que ceux que j'ai. Alors, il ne peut évidemment pas rencontrer de résistance. Il se heurte, il ne peut pas ne pas rencontrer plutôt de résistance, vous comprenez, quelqu'un qui s'oppose comme ça à la liberté. Alors, il se heurte notamment en 1549 à un libraire. Un libraire de Côme qui répand autour de lui une caisse de livres. Il est suspect. L'administrateur du diocèse prend parti pour le libraire. Les esprits s'échauffent. Il y a du tumulte dans les rues. Même une menace d'assassinat. Alors le bon père alexandrin, il voit qu'il n'y a rien à faire et il préfère prendre la fuite calmement. Et il s'en va à Rome, où il arrive la veille de Noël 1550. C'est un mauvais début pour l'exercice de son pouvoir de catholique. Le préfet du Saint-Office est le fameux cardinal Carafa, qui va devenir pape, l'accueille cordialement, lui confie une autre mission. En juin 1551, donc, le père alexandrin succède, cette fois-ci au commissaire général de Saint-Office, à cause de sa mission qu'il a bien remplie cette fois-ci. Et il réussit à ramener à l'Église catholique certaines personnes responsables et importantes qui avaient préféré la réforme protestante qui leur semblait beaucoup plus évangélique et plus saine. À peine Carafa est-il élu pape, comme sous le nom de Paul IV, en 1555, il nomme immédiatement le cardinal alexandrin évêque. Puis 2 ans plus tard, il en fait un cardinal. L'hérésie, comme je vous ai dit tout à l'heure, fait en France des progrès que l'on juge terribles. Le cardinal alexandrin fait condamner 8 évêques français qui favorisent les réformés. C'est-à-dire qu'il fait condamner l'archevêque d'Aix, les évêques de Troyes, d'où des fondateurs de l'Église du Québec sont venus, n'est-ce pas? L'évêque de Valence, l'évêque de Dax, celui d'Oloron et d'Uzès, de Lescar et de Chartres même. Mais la condamnation n'a pas toutes les suites qu'il aurait voulu. Pourquoi? À cause de l'intervention de la reine Catherine de Médicis et du roi Charles IX, qui invoque quoi? Ce dont je vous ai déjà parlé, n'est-ce pas? Les libertés et les franchises de l'Église gallicane, c'est-à-dire que l'Église française, l'Église gallicane, l'Église catholique en France, a des libertés et des droits de nomination des évêques, et le pape n'a pas le droit, en fait, de toucher à ça. À la mort du pape, le cardinal alexandrin lui succède sous le nom de Pie V. C'est un autre pape, c'est le pape Pie IV qui a régné quelque temps. Il lui succède sous le nom de Pie V. Il est élu en 1566, il a 62 ans. Or, Saint Pie V, ce nouveau pape, entreprend tout de suite l'assainissement de Rome. Assainissement matériel et moral, embellissement de quelques coins de la ville, expulsion des femmes de mœurs légères. Bannissement même des juifs qui scandalisent l'opinion publique, dit-on, par leur trafic d'argent, leur usure, c'est ce qu'on prétend. Et puis Saint Pie V se montre surtout gardien inflexible de l'orthodoxie, comme il dit, et poursuit sans relâche et partout ceux qu'il appelle les hérétiques. Alors en Allemagne, où l'empereur Maximilien II s'accommode tout à fait de l'idée protestante là, qui s'énonce en latin « cuius regio, huius religio », c'est-à-dire « telle région, telle religion ». Dans une région, bon, le chef, le prince est protestant, bon, ben, c'est la religion protestante qui règne, la religion luthérienne, disons. Et dans l'autre, bien, c'est un catholique, alors c'est la religion catholique. Alors donc, le pape lutte contre des intrigues de Maximilien. Cet empereur, et Pie V essaie de l'enrayer en imposant aux professeurs d'université, surtout, une profession de foi analogue au serment antimoderniste de Saint Pie X au début du siècle, et d'un autre serment qui a été promulgué il y a une quinzaine d'années. Hein. Des théologiens protestants, donc, lancent ce qu'on appelle, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, les centuries de Magdebourg. Alors, Pie V y répond. Par la plume de Saint-Pierre Canisius, le père Canisius, qui a été le premier provincial des jésuites en Allemagne. Et il dévoile dans les centuries de Magdebourg qu'il y a là des propositions qui sont contraires à la foi catholique. C'est dans un livre qui s'appelle « Les altérations de la parole de Dieu ». En France, bien, la politique du roi Charles IX puis de la reine Catherine de Médicis favorise plus ou moins directement là, les protestants qu'on appelle les Huguenots. Hein? Et Saint Pie V s'en plaint par son légat, ou si vous voulez, son ambassadeur, et par une série de lettres où il recommande l'anéantissement des ennemis de l'Église. Alors, il est sévère. Comprenons qu'à cette époque, il n'y avait pas d'écuménisme. Et comprenons aussi qu'à cette époque, il y avait toujours cette mentalité qu'il ne fallait pas briser vraiment le corps de l'Église, qui est le corps du Christ. Il fallait que l'Église soit unie. Mais elle était tellement décadente sous certains rapports qu'il ne faut pas se surprendre qu'il y ait eu des hommes qui ont préféré la quitter. Je ne dis pas que c'était une bonne chose, mais je comprends, même si je suis catholique. Alors, il s'agit évidemment d'une guerre, là, hein? Et Pie V envoie même des troupes au roi de France. On a prétendu qu'il était partisan d'une guerre sourde, là, puis secrète, qui aurait abouti même à la Saint-Barthélemy, dont vous avez entendu parler, ce massacre des protestants. Erreur, et c'est une calomnie, dit-on, parce que sa pensée était tout entière dans cette recommandation qu'il avait faite. Si votre majesté veut faire fleurir son royaume, qu'elle en extirpe l'hérésie, et qu'elle ne souffre dans ses états que le seul exercice de la religion catholique. Tant que les esprits seront divisés sur la question religieuse, votre majesté n'en recueillera que du chagrin, et votre royaume sera un sanglant théâtre de continuelles factions. En fait, ce qu'il veut éviter, c'est les guerres sanglantes, les oppositions mesquines. Il voudrait faire que l'unité existe, même si c'est un peu de force, mais qu'elle se fasse en douceur quand même. Et nous verrons la suite tout à l'heure. Alors donc, en Angleterre, Pie V se montre toujours un père pour Marie Stuart. Et il combat tantôt par la diplomatie, tantôt par des bulles audacieuses de la politique qui est très hérétique à ses yeux d'Élisabeth, la reine Élisabeth I qui a coupé l'Église d'Angleterre de l'Église de Rome et qui finalement fait trancher la tête de Marie Stuart. Qui était reine de France et d'Écosse. Et en Espagne, bien l'intervention du pape contre l'hérésie est presque superflue. Le tribunal de l'Inquisition agit spontanément, avec sévérité. Il y a des colonies protestantes de Cordoue, de Séville, de Tolède qui disparaissent finalement. C'est terrible quand on raconte ces histoires-là. Terrible, terrible. Aux Pays-Bas, donc à Hollande, il y a un tribunal de sang. Qui est érigé par le duc d'Albe. Vous savez que les Pays-Bas étaient soumis à l'Espagne. Donc le duc d'Albe, au nom du roi d'Espagne, Philippe II, y a établi un tribunal de sang. Et Pie V essaie d'en modérer les rigueurs. Il n'aime pas qu'il y ait des morts. À l'université de Louvain, le fameux Baius se fait remarquer par une série de propositions dites hérétiques. Alors il y a une condamnation du pape et Baius finit par se soumettre en 1570. Pour ce pape plutôt sévère, les Turcs sont encore bien plus dangereux que les protestants pour la civilisation occidentale, parce que les Turcs attaquent Malte et les îles voisines, puis se passent des cruautés abominables. Ce sont des siècles extrêmement cruels. Notre siècle a été terriblement cruel, mais à cette époque-là aussi, c'était très cruel. Les gens disent « Ah, le bon vieux temps ». Oui, le bon vieux temps, voilà. Et le 25 mai 1571, Saint Pie V a la satisfaction de faire signer, dans un consistoire extraordinaire, une alliance offensive et défensive entre le Saint-Siège, l'Espagne puis la République de Venise contre les Turcs. Et là, ça va être la fameuse bataille de Lépante que vous connaissez. Je vous ne la raconte pas tout de suite. Don Juan d'Autriche, chef de l'armée, qui est tout jeune, la bataille de Lépante, se rend aux environs du golfe de Patras, là, avec ses bateaux de chrétiens. C'est la victoire des chrétiens. Et les Turcs voient leur flotte anéantie. Ils perdent 30 000 hommes, imaginez, dont leur chef, Ali Muaddin. Ils abandonnent 15 000 rameurs chrétiens délivrés de leur esclavage. 15 000 chrétiens qui étaient réduits à l'esclavage par les Turcs comme rameurs. Dans une vision, dit-on, Saint Pie V a connu l'heure même et le succès de la bataille. C'est ce qu'on raconte. Si le pape s'attaque vigoureusement aux ennemis de l'Église, il s'attaque aussi aux abus qui règnent dans l'Église même. Il est très sévère à l'égard de l'Église, c'est un réformateur. Il fait appliquer les décrets du Concile de Trente. Il organise ce qu'on appelle la pénitencerie. Il établit la congrégation de l'index pour la classification des livres et la condamnation des livres. Il fait paraître le fameux catéchisme du Concile de Trente en 1566. Il réforme le bréviaire romain que récitent les prêtres. Deux ans plus tard, il promulgue même deux ans plus tard encore un nouveau missel qui a duré jusqu'à tout récemment. C'est à lui d'ailleurs que remonte, nous qui avons connu ça, la récitation du psaume in Troibois d'Altare Dei au tout début de la messe, le confiteor que l'on récitait au début de la messe, et puis à la fin de la messe, la lecture du texte de l'évangile de Saint-Jean, du début de Saint-Jean, in principio erat verbum, n'est-ce pas? On entendait le prêtre qui murmurait ça à gauche de l'autel. Ça vient de lui, ça. Alors, il confère des avantages spirituels aux ordres religieux, et évidemment, surtout aux dominicains, puisqu'il l'était. Et il met saint Thomas d'Aquin au rang des docteurs de l'Église, comme on songe à mettre au rang des docteurs de l'Église sainte Thérèse d'Enfant Jésus cette année. Il accomplit ça en 1567 pour Thomas d'Aquin, puis il oblige les universités à enseigner l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire la somme théologique. Alors, ce résumé de sa vie se termine en vous disant qu'il est mort, comme je vous l'ai dit au début, le 1er mai 1572. Il a été béatifié sur les instances du général des Dominicains et puis a été canonisé finalement en 1710. Hein. Le pape Pie V, qui a eu la charge épouvantable de prouver au monde que les décisions de ce Concile de Trente, dont je vous ai à peine glissé le nom tout à l'heure, ne seraient pas vides de sens, s'est trouvé être en même temps un homme, malgré tout, selon Daniel Robs, de grande classe, et un saint. Mais c'est un saint de cette époque, et n'oubliez pas que les saints de cette époque, ce ne sont pas les saints d'aujourd'hui. Ça se situe dans un autre climat psychologique, dans une autre histoire, dans d'autres événements, dans d'autres réactions, dans d'autres façons de comprendre les textes, d'une autre façon d'être élevé aussi, de voir les gens agir autour de soi, c'est un autre monde. Alors, au premier consistoire qui a suivi son élection, il a tenu aux cardinaux un discours très beau, dont deux phrases résument son intention. Écoutez bien ça, c'est des paroles d'un saint. Nous ne paralyserons les progrès de l'hérésie que par une action sur le cœur de Dieu. C'est à nous, lumière du monde, sel de la terre. Ça, c'est la conviction des catholiques de cette époque d'être vraiment la lumière du monde et le sel de la terre. On a beaucoup perdu ça. Nous sommes tombés beaucoup dans le syncrétisme aujourd'hui. On dit que toutes les religions se valent, etc., mais pas pour lui. C'est à nous, dit-il, lumière du monde, sel de la terre, qu'il appartient d'éclairer les esprits, d'animer les cœurs par l'exemple de notre sainteté et de nos vertus. Alors ce programme, ben, il le met en pratique lui-même de façon éclatante. Bientôt, je vous ai dit qu'il avait fait des réformes à Rome. Ben, les Romains ont appris que ce nouveau pape loge comment? Dans une cellule de moine. Il ne boit que de l'eau, il boit pas de vin, lui qui a été élevé par des vignerons. Il passe des heures à méditer la passion du Christ et à prier. Il se prosterne souvent. Et même devant tous les schismes dans l'Église, devant la décadence de l'Église, devant les attaques des Turcs, il en pleure. Vous savez que Paul VI, on l'a vu pleurer quelquefois devant tous les prêtres qui quittaient l'Église, ou du moins leur sacerdoce, etc., etc. Alors il pleure devant Saint-Sacrement. Il égrène des dizaines de son rosaire. Bientôt, on constate qu'on ne rencontre plus dans les rues de la ville de Rome de ces fameux cortèges de cardinaux qui se promenaient dans des carrosses somptueux avec une cour. C'est fini ce temps-là. Il n'y a plus de prélats qui circulent en voiture avec de jolies femmes et parfois de jolis garçons. On n'entend plus parler de fêtes et de festins scandaleux. Il a réformé. Mais en revanche, les œuvres charitables reçoivent des dotations généreuses. Ça entraîne la générosité des fidèles, ça. Car les fidèles veulent la réforme. Les travaux d'utilité publique reçoivent une nouvelle impulsion. Parce qu'il est au fond l'administrateur aussi de la ville de Rome, hein, un peu comme un maire de ville. Et puis l'admiration est portée à son comble quand on voit le pape, vicaire du Christ, s'en aller à pied, portant l'ostensoir, faire le pèlerinage au basilic. Cela ne s'était jamais vu depuis des siècles. Le peuple est enthousiasmé, il veut élever déjà de son vivant une statue à ce pape, mais il refuse évidemment. Comment était-il, cet homme? C'était un homme maigre. Aux traits creusés, au large front, il y avait des pommettes saillantes. C'était un paysan du nord de l'Italie. L'œil profond, vif, qui semblait obstinément fixé sur le but. Il avait une forte moustache, chose étrange. C'était prolongé par une longue barbe blanche. Une bouche sans presque de sourire. Il y avait une volonté farouche. Il fallait qu'il lutte. Il y avait une résolution inflexible. Et sur l'étonnante médaille de 1570, est frappée à son effigie, on voit qu'il fait penser vaguement à Calvin, dont je vais vous parler dans quelques semaines. Il ne prête pas à rire, écrivait de lui un ambassadeur de Venise, avec un tel homme comme Saint Pie V. Donc la cause de la réforme est entre très bonnes mains à Rome. À peine élu, je vous l'ai dit, hein, il s'était mis en devoir de mettre en œuvre tous les degrés disciplinaires du Concile de Trente. Alors, je vous explique ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Sa première chose, c'était de renvoyer dans leur diocèse les évêques qui tenaient à être présents à la cour de Rome. Les récalcitrants sont avertis qu'à demeurer à Rome, ils risquent le château Saint-Ange, c'est-à-dire la prison. Il met à l'ordre les chanoines de Saint-Pierre, qui avaient des conduites plus ou moins étranges, certains d'entre eux. Et leurs anciens privilèges ne comptent plus. Il réduit les curés de la ville au silence. Il laisse trop librement les curés leurs ouailles, leurs fidèles, qui rirent et plaisantaient dans leurs églises, disent les textes anciens. Alors le pape ne veut plus tolérer ça, il veut le silence dans les églises et que les gens prient. 6 prêtres, 6 curés sont arrêtés d'ailleurs, parce qu'ils s'opposent à ça. Alors, il y a de la simonie aussi, le trafic d'influence, du népotisme. Alors le pape veut tout transformer ça. C'est beaucoup entreprendre à la fois pour être efficace et durable, mais il y tient. Les cardinaux que Saint Pie V nomme sont tous, dit-on, ruisselants de vertus insignes. C'est la vieille expression. Alors, qui a-t-il nommé? Ben, il nomme l'abbé général des Cisterciens, Don Souchier. Il y a un théatin aussi, Bourali, qui est considéré comme un saint. Il le nomme cardinal. Et puis, sur un ton qui n'a pas l'air leur de plaire aux gens, il parle aux cardinaux puis aux évêques de façon sévère. Il multiplie les admonitions, les reproches. sans parler même des menaces. Il y a un vent d'austérité qui souffle sur l'Église catholique, et d'abord sur Rome. La police pontificale à Rome et dans les États fait des rafles pour ramener les demoiselles de petite vertu à une vie bien différente. Les courses de chevaux à la mode du palio de Sienne, vous savez, on voit ça à la télévision, les courses à Sienne, là, qui se déroulent traditionnellement devant l'église de Saint-Pierre de Rome, mais sont reléguées dans un quartier assez loin, tant et si bien que ces courses-là tombent en désuétude, on n'y va plus. Cet intransigeant pontife, comme on dit, ce pape extrêmement sévère, voudrait supprimer le carnaval romain. Mais il ne peut pas y parvenir, cela entraînerait évidemment une révolution. Alors il institue les prières des 40 heures pour racheter les désordres de ses journées. Et lui-même se retire à Sainte-Sabine, à Rome, pour y faire pénitence. Un de ses gestes les plus spectaculaires et les plus discutés aussi, c'est d'expulser des palais pontificaux tout ce qui ressemble à de la nudité païenne. C'est un geste dont la ville de Rome va profiter. C'est là qu'ils sont rendus ces statues au musée du Capitole. Et puis parallèlement à cette œuvre très dure puis punitive, Saint Pie V emmène une autre, d'un caractère encore plus constructif. Il obéit au décret du Concile de Trente. Il se met en devoir de mener à bien puis de promulguer les livres que le Concile a tenus pour indispensables. Il suffit pas d'écarter les mauvais ouvrages, ceux que l'index, le corrigé, désigne, après que la congrégation du même nom les a recherchés. Il faut donner aux fidèles, dit-il, la bonne nourriture, dont leur âme a faim. Alors dans ce but, tour à tour, il mène à terme quatre publications dont je vous ai parlé tout à l'heure, le catéchisme, le bréviaire, le missel, puis la somme de saint Thomas. Mais le catéchisme avait été entrepris durant les dernières semaines du Concile par une commission que présidait le cardinal Siripando. Alors l'assemblée dissoute, le cardinal Borromée, Saint-Charles Borromée, avait continué le travail aidé par trois théologiens dominicains. Et ce ne fut qu'en septembre 1566 que le catéchisme est paru, après 5 ans d'efforts soutenus. On applaudit ce catéchisme. Il y est question du credo, des sacrements, la morale chrétienne, de la vie spirituelle, de tout ce qu'un catholique pouvait et devait croire. Tout ça était explicité en termes précis. Je l'ai appris par cœur quand j'étais enfant, je m'en souviens. Traduit aussitôt en toutes les langues, répandu dans l'univers entier, ce livre, somme comme on l'a appelé, allait être la charte, le code des catholiques, quoi. Jusqu'en 1950-1960, il était d'un usage constant dans toute l'Église. Mais on a cru qu'il était trop sec. On a voulu transformer cet enseignement pour rendre plus plein de charité le message de notre foi. C'est pour ça qu'on entend les enfants nous dire qu'ils sont devenus des amis de Jésus, comme ça nous était enseigné hier dans la messe. La messe nous parlait de l'amitié. Nous sommes des amis de Dieu. Et fils de Dieu. Le bréviaire, lui, le livre où les prêtres, de bons laïcs, peuvent suivre, comme on dit, les heures canoniques, existait depuis bien longtemps, et le plus en usage, c'était celui qui datait de 1277, qui avait été établi par les franciscains et les frères mineurs. Il avait été alourdi au cours des âges, était devenu surabondant, et au temps de Léon X, on avait eu la triste idée d'y glisser des hymnes mythologiques imaginés, puis des belles choses chères aux humanistes. La Vierge était qualifiée de déesse bienheureuse, la Trinité de triple visage de l'Olympe, des affaires absolument bracadabrantes. Vous savez, c'est pas surprenant qu'il y ait eu des protestants. Ne nous étonnons pas devant les schismes. Mais fort loin de la vraie tradition chrétienne, il y avait toutes sortes de choses dans ce bréviaire. Et alors Clément VII avait dû créer une commission pour corriger les abus, puis le cardinal Quiñones, cardinal espagnol, avait fait un autre bréviaire dit de Sainte-Croix qui n'avait pas donné satisfaction. Alors Pie IV, le prédécesseur de Pie V, Pie V, en 1564, avait constitué une commission pour la réforme du bréviaire, et finalement, ça a été Saint Pie V qui, prenant l'affaire en main avec son énergie coutumière, l'a confié à une commission de cardinaux. Il a fait aboutir tout ça en 1568. Il a publié le nouveau bréviaire, plus court, mieux centré sur l'office principal, débarrassé d'un grand nombre de fêtes excédentaires et inutiles. Et rares furent les églises qui ont refusé de l'adopter. La petite église de Milan, la petite église de Lyon, celle de Tolède, par exemple, qui ont refusé. Alors, cette réforme du bréviaire, ça appelait aussi la réforme du missel. Elle a été menée à bien aussi, car le missel de Saint-Pie V était une réforme à l'époque. Je ne le regrette pas personnellement. J'aime beaucoup le missel de Paul VI, personnellement. Alors, jusqu'alors, l'Église occidentale célébrait la messe de quatre façons. Il y avait le rite romain, le rite milanais, le rite ambrosien, qui était la même chose que le rite milanais, puis il y avait le rite gallican en France, puis le rite mozarabe en Espagne. Alors, la même commission cardinaliste qui venait de refaire le bréviaire a mis au point un nouveau missel qui a été publié, ce fameux missel qui est tant regretté par les gens d'extrême droite, en 1570. Ça a supprimé les différences qui étaient un peu trop étonnantes pour les fidèles qui se promenaient de plus en plus. Et certains points nouveaux ont été fixés. Par exemple, la récitation, comme je vous ai dit, de l'introibo ad altare dei, du confité or, etc. Puis il y avait la belle prière, la Suscipe Sancta Trinitas, à l'offertoire. Puis le dernier évangile de Saint Jean, comme je vous ai dit, mais à part de très minimes détails auxquels ont tenu à demeurer fidèles quelques églises, comme celle de Lyon et de Milan, puis quelques ordres comme les dominicains, mais le missel de Pie V a été adopté par tous les catholiques. Et ça a unifié l'Église. Presque sans aucun changement, il est resté comme ça jusqu'au Concile Vatican II. Puis il est quand même autorisé, vous savez, dans certaines paroisses. Il y a des paroisses à Montréal, je pense qu'il y en a deux, qui ont le droit d'utiliser ce missel de Pie V. L'Église est toujours compréhensive à l'égard des gens qui sont très traditionnalistes. Il est enfin une quatrième édition dont on parle moins d'ordinaire que les trois précédentes et qui a de l'avenir. C'était que Pie V a aimé Saint Thomas depuis sa jeunesse. Il l'a étudié. Puis la pensée de Saint Thomas lui paraissait à la base la plus solide pour réédifier l'Église, pour lui donner, comme il disait, un moule stable contre les tempêtes. Et en 1567, il proclame donc Saint Thomas d'Aquin, comme je vous ai dit, docteur de l'Église. Il l'a placé au rang, voyez-vous, d'Antoine, de Saint-Antoine, de Saint-Augustin, de Saint-Jérôme et de Saint-Grégoire le Grand. Il y avait très peu de grands docteurs à l'époque. Puis, il a ordonné à deux théologiens de son ordre de préparer, d'après les manuscrits du Vatican, une publication définitive de la Somme théologique. Puis c'est lui qui a tout payé ça. Les universités ont reçu l'ordre d'enseigner le seul thomisme, et puis les jésuites se sont ralliés à ça. Il a été un pape très actif, comme vous voyez. D'accord, trop disciplinaire. D'accord, un peu trop doctrinal. Mais c'est dans le temps, il faut le situer dans le temps. Hein. Et tout ça était bien loin de suffire à occuper cet homme absolument infatigable. Et sur tous les plans, il a engagé la lutte pour le retour à la fidélité chrétienne, pour l'unité de l'Église, pour la discipline à l'intérieur de l'Église. Même les princes ont été invités d'une voix catégorique à rentrer dans les projet de l'Église catholique, à promouvoir chez eux la réforme, à lutter de toutes leurs forces contre l'hérésie. Il y a sa fameuse bulle « In China Domini » qui rappelle leurs devoirs, question de l'Eucharistie. Tout n'était pas toujours drôle, hein. C'est pas tous les princes qui se sont soumis, pas tout le monde s'est soumis à une obéissance, à tous ces appels du pape. Mais il n'a jamais voulu biaiser sur les principes. Il était dédaigneux des moyens habituels de la diplomatie. Ce pape, comme je vous l'ai décrit, maigre, était devenu un vieillard, avançait partout, puis il parlait net. Il était menaçant au besoin. Il était escorté dans son action par des hommes de l'Inquisition qui étaient incorruptibles. C'était une immense offensive d'orthodoxie qui s'est développée. Et c'est presque impossible de savoir l'ensemble de tout ça, c'est tellement fantastique, c'est une œuvre immense. Qui nous gêne aujourd'hui, moi ça me gêne beaucoup de parler de ça, ça me gêne. Mais mon Dieu, dans cette époque, est-ce que c'était pas le pape qu'il fallait finalement? Compte tenu du temps, compte tenu des choses. En Allemagne, qui a été la terre bénie, si on peut dire, du luthéranisme, je vous ai parlé de l'empereur Maximilien II, qui faisait des concessions. Mais il y a eu une menace d'excommunication, ça l'a retenu, lui. Lorsqu'il était question, dans un certain moment, aux diètes d'Augsbourg et de Spire, de mettre sur pied l'égalité les catholiques et les protestants, les mettre sur un pied d'égalité. En Angleterre, Élisabeth établissait définitivement son église d'État, hein, puis là, Pie V a parlé haut, excommunier cette reine. Et puis, tout s'est produit d'un bout à l'autre, même en Pologne. Sigismond II essayait de ramener son pays à la foi catholique, et le pape l'a aidé de son mieux. En Suède, la reine Catherine Jagellon, catholique fidèle, a accepté, sur les instances de son mari, de communier sous les deux espèces. Et le pape l'a excommunié pour avoir communié sous les deux espèces. Que c'est ridicule, n'est-ce pas? Je vous dis pour montrer les abus de ce pape dans ses excès de réforme. Que c'est triste, que c'est triste. Il va de soi que dans les pays où l'influence de ce pape plutôt terrible pouvait s'exercer, là, la réaction est très sévère. Alors les princes italiens sont épouvantés, sont convaincus, finalement. Ils entrent aussitôt dans le jeu, et à Florence, à Venise, il y a quelques exécutions qui suffisent à écarter tout risque de protestantisme. On procédait de cette façon-là. Je vous le dis parce que c'est vrai. Mais ce n'est plus du tout comme ça. L'Église est grandement réformée. Lui, il l'a réformée à sa façon. Il a fait ce qu'il pensait faire. C'est des politiques de fidélité, politiques de chrétienté, disait-on. Et pour ce pape, qui est très médiéval par bien des côtés, tout ça se confond, politique et chrétienté. J'aimerais terminer en mettant les points sur les i. Ce qu'il faut mettre de vraiment définitif au crédit de ce pape Saint-Pie V, qui était grand malgré tout, malgré ses violences excessives à mon avis, une précipitation excessive aussi. C'est ce que lui reconnaît le cardinal Grand dans un excellent livre qu'il a publié bien longtemps, en 1914, alors qu'il était simplement l'abbé Georges Grant. C'est un livre très important sur ce pape. Les décisions du Concile de Trente allaient devenir une réalité. Les œuvres vives du catholicisme prendre un nouvel essor. Il faut bien admettre, évidemment, je le crois, moi, que cette tâche immense n'a pas pu être menée ainsi à bien dans un pontificat qui a duré seulement 6 ans. Ce pape a été là 6 ans seulement. Si au même moment, il n'y avait pas eu une pléiade de saints extraordinaires, des saints qui, eux aussi, ont travaillé de toutes leurs forces pour ranimer, pour réorganiser, pour développer l'Église catholique. S'il n'y avait pas eu, à côté de ce pape, Saint-Pie V, ces grandes figures, qu'on entoure d'une grande vénération encore aujourd'hui, et certainement avec beaucoup plus de tendresse qu'on peut entourer ce pauvre pape. Je parle de Saint-Charles Borromée, de Saint-Philippe Néri, de Sainte-Thérèse d'Avila, de Saint-Jean de la Croix, et je n'oublie pas Saint-Ignace de Loyola, et tant d'autres. Ce pape a été attentif à la sanctification de l'Église, comme à l'intégrité de sa foi. Saint-Pie V s'est occupé de régénérer donc le clergé, comme on l'a vu, par le retour à l'ancienne discipline. Il a assuré la dignité du sacerdoce et par l'interdiction de ce qui aurait pu l'avilir, le prêtre, dans ses fonctions. Et dans le choix des évêques, il a recherché avant tout la sûreté de leur doctrine, de la sincérité de leur dévotion, de leur piété, et la dignité de leurs mœurs aussi. On ne peut pas avoir des évêques qui font n'importe quoi, puis des prêtres qui font n'importe quoi. Alors il a veillé à ce que les prescriptions du Saint-Concile de Trente ne soient pas lettre morte. Il a voulu que les cardinaux soient reconnus pour ce qu'on appelle leur dévotion profonde, leur foi profonde, leur adhésion à Jésus-Christ, par leur vertu, bien plus que par leur dignité. Qu'est-ce que ça donne, la dignité, s'il n'y a pas ça à la base dans l'Église? Il a voulu qu'ils prennent une part plus active aussi au gouvernement de l'Église. Et on doit à Saint-Pie V, dans le domaine de l'enseignement, évidemment, comme je vous ai dit, la publication de ce catéchisme qui a fait beaucoup plus de bien, on en s'en moque aujourd'hui, mais il a fait beaucoup de bien pendant des siècles. Catéchisme du Concile de Trente. Il a réformé aussi la liturgie. Bah, c'était, malgré tout, une excellente chose. Puis la publication d'un bréviaire réformé, du missel réformé, etc. S'est occupé d'évangélisation et a envoyé des missionnaires dans les Indes orientales et occidentales, c'est lui ça. Il s'est occupé aussi des religieux. Puis a déclaré saint Thomas d'Aquin, je vous le répète, docteur de l'Église et obligé les universités aussi à enseigner la somme théologique. Ce n'était pas une mauvaise chose, car la somme théologique est une grande œuvre. Qu'on cesse donc de penser que c'est vide la somme théologique. C'est certainement mieux que ce qu'on enseigne aujourd'hui. On enseigne l'athéisme, on enseigne n'importe quoi. Qu'on juge aux réformes de ce pape, qu'on juge ces réformes par leurs résultats. On voit qu'il y a eu une impulsion féconde, finalement, sur la foi, la piété, le culte, qui ont pris un nouvel essor. Et rarement période a été plus féconde en saints. Faut tout de même donner à ce pape, malgré tout, ce qui lui revient. Il a été atteint par la maladie de la pierre. Il a préféré endurer ses souffrances, les plus aiguës, plutôt que de consentir à une opération. Et les derniers jours de son existence ont fait briller dans son regard et dans tout son être sa sainteté. C'était un saint de son époque. Je le répète, c'était un saint de son époque. C'est donc difficile à comprendre. J'ai même de la misère à comprendre ce que je vous dis. Il manifestait une grande dévotion, n'est-ce pas, au mystère de la croix. Et sur son crucifix, qu'il avait à son chevet, il avait fait graver le mot de saint Paul, « Loin de moi de me glorifier, si ce n'est dans la croix du Sauveur. » Et durant l'hiver 1571-1572, sa maladie s'est aggravée, puis il souffrait énormément. Et au cours des accès les plus difficiles de sa maladie, il murmurait seulement, et c'est très beau, un Seigneur, augmentez le mal, s'il vous plaît, mais augmentez aussi ma patience. Il acceptait de souffrir, tel que la nature fait les choses. Mais il demandait la patience, douce patience, qui permet de prier et qui permet d'être bon pour les gens qui sont autour. Et malgré sa faiblesse, il a voulu observer les pratiques du carême. Il ne pouvait pas célébrer la messe. Il assistait chaque matin dans sa chambre à la messe. Le jeudi saint, le 3 avril 1572, il a reçu la communion en viatique de son neveu, le cardinal Alexandrin, qui portait le même nom que lui. Le vendredi saint, saint Pie V a commandé qu'on lui apporte une croix. Il s'est levé pieds nus et est allé la vénérer. Le jour de Pâques, il a rassemblé ses forces pour bénir encore les Romains. La ville entière. Il y a une accalmie qui s'est produite. Et Saint Pie V s'est trouvé moins invalide. Il a voulu entreprendre une dernière fois le 21 avril le pèlerinage aux 7 basiliques de Rome dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a obtenu la faveur, finalement, de mourir en pleine connaissance. Le 30 avril, il a annoncé qu'il atteignait le terme. Il a invité un évêque à lui administrer l'extrême onction. Et là, il a fait ses adieux, il a dit aux cardinaux réunis autour de son lit, « Je vous recommande la Sainte Église que j'ai tant aimée. » Il l'a aimée à sa façon, mais il l'a vraiment aimée. « Je vous recommande la Sainte Église que j'ai tant aimée. Employez-vous à m'élire un successeur zélé qui ne cherche que la gloire du Sauveur et qui n'ait aucun intérêt ici-bas que l'honneur du siège apostolique et le bien de la chrétienté. » Alors, sa tâche immense, en 6 ans, là, c'est terminé. Il ne parlait plus qu'à Dieu. Le 1er mai 1572, à 5 heures du soir, il expire. Et en murmurant ce petit passage de son bréviaire, « Quisumus auctor omnium ». Nous te cherchons, auteur de toutes choses. C'est Sixte Quint qui a érigé un mausolée somptueux à Pie V dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure. En 1671, Clément X l'a béatifié. Et puis Clément X et Clément XI, en le canonisant, le 4 août 1710, a déclaré qu'il voulait honorer le siège apostolique et lui procurer un patronage opportun et nécessaire. Sa fête a été fixée au 5 mai. Saint Pie V, c'est un pape difficile, d'accord? Mais compte tenu de l'histoire, je vous le répète, je crois que c'était un très grand pape. J'en profite pour demander pardon aux protestants. Pour demander pardon aux... Non, moi, qui suis-je pour demander pardon, mais enfin, comme catholique, je le fais. Pour les excès qui se sont produits à l'époque. Mais j'espère qu'ils ont compris quand même que ce pape, comme ils comprendront à la fin du mois, Calvin, ont dû poser des gestes qu'ils croyaient être les gestes qu'il fallait poser. Aujourd'hui, nous pensons différemment. Saint Pie V, vous qui comprenez mieux sans doute les choses aujourd'hui, aidez-nous dans l'Église à être plein de fraternité et de bonté pour nos frères séparés. Et faites que dans notre Église, nous soyons des saints.